Europe 1. On de la traconte. Christophe Ondelatte.
En 1948, le gangster Émile Buisson est l'homme le plus recherché de France. Évadé de prison, il n'a plus rien à perdre. Au rythme d'un braquage violent par mois, il met sur les dents la police. Il est dangereux et n'hésite pas à abattre ses complices au moindre doute.
Europe 1. Christophe Ondelatte.
Le 2 septembre 1947, à 10h du matin, une traction avant se gare le long du mur d'enceinte de l'hôpital de Villejuif, quartier des aliénés Henri Collin, là où sont enfermés les plus dangereux. À l'intérieur, c'est l'heure de la promenade et Émile Buisson voit une tête dépasser au-dessus du mur. Il les attendait. Ils sont là.
Hey, « Hé, Émile, t'es prêt ?»
Et comme prévu, la tête lui jette un revolver dans la cour et Émile Buisson, vrai gangster et faux cinglé, s'en empare.
« Personne ne bouge. Vous m'entendez? Je m'arrache. »
Trois mois qu'il prépare ce coup-là. Trois mois qu'il joue le fou pour se faire transférer ici depuis la prison de la santé. Trois mois qu'il fait le dingo devant les docteurs et qu'il se met à rire tout seul et qu'il leur montre son ventre. Oula, oula, ça monte ou ça descend. Ouh, 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 ça brûle. Ouh, ça monte. Ouh, j'ai une bête là-dedans. Ici, chez les fous, c'est forcément moins surveillé qu'à la santé. Beaucoup moins. Ici, c'est une passoire. Ici, il va pouvoir se faire la belle. En trois coups de cuillère à peau. Et hop, ses complices jettent une échelle de corde le long du mur. Et hop, Mimille escalade le mur avec deux copains, Roger Descaires et René Girier, qui eux aussi faisaient les fous depuis un certain temps. Et hop, les voilà dehors, où les attend une voiture. Pas vu, pas pris. Mais au bout de quelques kilomètres, Émile Buisson fait arrêter la voiture. Il s'adresse à Girier, qui s'est évadé avec lui. Il ouvre la porte arrière de l'attraction et l'autre est assis. « Toi, toi t'es pas comme moi, tu me gênes, tu descends tout de suite !» Leur route se sépare. Cette évasion fait à l'époque les gros titres des journaux. Le commissaire Chenevier du groupe de répression du banditisme de la Sûreté l'apprend par un téléx. Et il fait la grimace. Putain, il est dehors. Buisson. Buisson est dehors. C'est pas un braco, hein. C'est un tueur. Parce qu'il connaît le bonhomme. Il l'a déjà arrêté. C'est pas un tendre, Mimille. C'est pas un romantique. Il n'a pas de cœur. À la place, il a de la pierre. Et maintenant qu'il est dehors, forcément, il a besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, lui ne connaît que le braquage. Sauf qu'il n'est pas le seul sur le coup. Après-guerre, c'est le sport à la mode. Les quatre premiers mois de 47, 351 attaques à main armée, rien qu'à Paris. La police est larguée, vieille voiture, mal armée, pas de radio. Des bandits ont même cambriolé la brigade financière. Le ministre de l'Intérieur, Jules Moc, l'a dit assez nettement. « Ça suffit !» Et c'est là qu'Émile Buisson revient sur le marché et qu'il va devoir se faire un trou. 7 jours après son évasion, il signe son premier coup. Avec sa bande, il braque les clients de l'auberge d'Arbois, un restaurant chic de la rue Le Sueur.
« Oh les mains, pot de lapin !»
Et il s'en va avec l'argent et les bijoux des clients. Ils sont en train de s'enfuir quand 2 motos de la police débarquent. La course-poursuite est brève. Le premier motard, renversé. Le second, sulfaté à la mitraillette. Et Émile descend pour l'achever. Sauf que son arme s'enraye. Le poulet n'oubliera jamais le regard de Buisson, ses petits yeux noirs, brûlants de haine. De retour à la planque, vient le moment du partage et Buisson s'aperçoit qu'un bijou a disparu.
Qui est le salopard qui a tapé dans la caisse ?
Il soupçonne Henri, Henri Russac.
C'est pas moi, Émile, je te le jure, c'est pas moi.
Faut pas jurer et surtout faut pas l'embrouiller, Émile. Faut pas l'embrouiller. Le lendemain, Buisson et Russac vont repérer une villa. Sur le chemin du retour, Mimille le dégomme au coin d'un bois, une balle dans la nuque. Faut pas l'embrouiller. N'empêche qu'on retrouve le bijou un peu plus tard. Il avait roulé sous la table.
Peu importe.
Il avait une tête de balance, dit Buisson en guise d'oraison funèbre. Pas le genre à avoir des regrets, Mimille. Le 29 septembre, pas de chance. Descaires se fait serrer. Balancé par un indique, semble-t-il. Ça tombe mal. Mimille doit se refaire une bande. Mais ça ne se bouscule pas au portillon pour bosser avec lui. Il fiche la trouille à pas mal de monde.
« Ah, Mimille ! Ah, pas question, hein ! Il est dingue ! Si ta tête lui revient pas, il te descend !»
Il y en a qui l'appellent Fatalitas, celui qui porte malheur. Mais bon, il se trouve quand même des gars pour bosser avec lui, parce que quand même, il a un sacré pédigré. Il a tout fait. Les bagnes d'enfants, les bataillons disciplinaires et de la prison, bien sûr. Le dernier jour de son service militaire, il a balancé un coup de baïonnette à son sergent. Crève, charogne. Le métier, il l'a appris avec Charlot les Grandpieds, son mentor. C'est avec lui qu'il a fait le hold-up de Troyes en décembre 1937, avant la guerre. Sacré coup. La bande attaque un fourgon blindé devant le Crédit Lyonnais de Troyes, en pleine ville, en plein jour. En moins d'une minute, il s'envole avec 1 800 000 francs. Ça vous fait une réputation, ça. C'est pas une réputation de demi-sel, c'est une réputation de caïd. C'est depuis ce jour-là qu'il a aux fesses le commissaire Chenevier. Le monstre, comme on l'appelle, parce qu'il fait pas de cadeaux. La guerre est passée, mais Chenevier ne l'a pas oublié. À la tête des groupes de répression du banditisme de la Sûreté, il est prêt à tout pour l'arrêter. D'autant qu'il vient de tuer un flic. Je le connais, Mimille. Il est plus froid que la mort. Ça va être un carnage. Sa tête est placardée dans tous les commissariats. À la fin des années 40, c'est l'ennemi public numéro 1. Depuis qu'il a tué un flic, à l'auberge d'Arbois, Émile Buisson sent le soufre. Il n'arrive plus à avoir une bande stable. Il change d'équipe à chaque coup, presque. Il ne fait plus confiance à personne. Lui, sa chance, c'est qu'il est presque invisible. Et il fait tout pour. Petit, fin, il s'habille comme un notaire. Rasé de près, costume sombre, chemise blanche, cravate, chapeau noir à petits bords. Une allure de petit bourgeois. Et pour parfaire la photo, il lit le Figaro. Un homme qui lit le Figaro. On le contrôle pas. C'est comme ça qu'il se permet régulièrement de déjeuner à la rôtisserie Périgourdine, à deux pas du 36 quai des Orfèvres. Il est tranquille. Il n'existe aucune photo de lui. « Il est aussi de toutes les grandes soirées de boxe, et pas au milieu des gradins, avec les demi-selles, en bas, au bord du ring, aux places les plus chères. Ça, il vit seul. On ne lui connaît aucune liaison. Il change souvent de planque, et quand il quitte une planque, il laisse toujours une semaine de loyer d'avance dans une enveloppe. Ça lui permet de gagner du temps. Un jour, lors d'une descente de poulet dans une planque qu'il vient de quitter, qu'est Blériot, la concierge n'en revient pas. Le monsieur du troisième, un bandit ? Ah, vous devez faire erreur. Elle tombe de haut lorsque les policiers trouvent une grenade sur le dessus de la chasse d'eau. Et pendant ce temps, pour Buisson, la routine, banque, poste, encaisseur, fourgon blindé, le tout à un rythme soutenu d'un ou plus souvent deux hold-up par mois. Avec un sens du détail qui le rend unique. Les braqueurs en ce temps-là utilisent des tractions avant. Mais les tractions avant, comme dit le dicton, c'est traction avant, police derrière. Autrement dit, ça sent le marlou. C'est le meilleur moyen de se faire repérer. C'est pour ça que lui préfère les Peugeot 202. Plus discrètes, beaucoup plus pépères. Ça lui permet de passer les années 48 et 49 sans être inquiété. Mais je vous le redis, son avantage, c'est que les policiers n'ont aucune photo de lui. Juste une description, toujours la même. Un petit homme aux cheveux noirs et au regard perçant qui glace le sang. Et il profite aussi un peu de la guerre des polices, de la guéguerre que se livrent le commissaire Chenevier des brigades mobiles et le commissaire Pinault de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Début 49, il manque quand même de se faire serrer. Rue Bichat au 57, les locataires trouvaient leurs voisins un peu louches, alors ils ont appelé les cognes. Toute la bande est arrêtée, sauf Émile. Il s'est caché sur le toit, derrière une cheminée. Une fois encore, il doit remonter une bande. Et c'est avec elle que le 21 mai 49, il monte sur un braquage, en Peugeot 202, ça va de soi. Et à la hauteur du Plessis Robinson, la voiture fait une embardée. Et pour cause, on a tiré à l'intérieur de la voiture. Buisson est au volant et il voit son voisin de droite sur le fauteuil passager s'effondrer sous ses yeux. C'est ce crétin de Désiré sur la banquette arrière qui a fait une fausse manœuvre. « Je te le jure, Émile, c'est un accident. Le poissonnier s'est tué tout seul. » Buisson exige d'abord qu'il verse à la veuve une pension. Mais quelques jours plus tard, il se ravise et on retrouve le cadavre de Désiré, une balle dans la mâchoire. « Faut pas l'embrouiller, Émile. Faut pas l'embrouiller. » Je vous ai déjà raconté, je crois, le petit nom d'Émile Buisson. Celui qu'on lui donne dans le milieu. Fatalitas. Parce qu'il porte la poisse à tous ceux qui travaillent avec lui. Quand il ne les tue pas, ils se font arrêter. Mais pas lui. Eux, mais pas lui. C'est encore ce qui se passe au début de l'année 50. Dans un hôtel de Saint-Mandé, la police judiciaire coince toute la bande, sauf lui. Il est parti une demi-heure plus tôt. C'est rageant. Et évidemment, ceux qui se font arrêter se font aussi cuisiner. Et c'est ainsi qu'un jour, l'un d'entre eux balance. Buisson, il se planque dans une auberge à Saint-Vrain. Les policiers jubilent. Ils débarquent en masse à l'hôtel. Mais l'autre est parti depuis 8 jours. Et le patron n'en revient pas. Un bandit? Ce monsieur si correct? C'est pas possible. Une autre fois, la police judiciaire, qui sait qu'il a besoin d'hommes, lui envoie un indique, lequel indique finit par avoir un rencard avec lui, au Jardin des Plantes. Mais Buisson, il sent le flic à 100 mètres, il sent le piège. Il se cache dans un bosquet et il n'en sort que quand les policiers sont repartis. Et à chaque fois, Chenevier enrage, d'autant qu'un Corse vient lui dire un jour « Vous savez, Mimine, il a repéré votre fils qui sort souvent promener votre chien. J'ai entendu dire qu'il allait lui faire sa fête. » Son fils, Chenevier serre les poings. Il l'aura un jour, bientôt. Et le voilà qui échafaude un nouveau plan. Si j'étais Mimine, qu'est-ce que je ferais? Je chercherais d'abord une bonne planque. Ensuite, je tâcherais de me dégoter une voiture et un complice pour monter un coup. Et le voilà son plan. Je vais fournir à Buisson une planque, une voiture et un complice. Ses adjoints sont éberlués. Le patron est tombé sur la tête. Borniche, vous connaissez bien le milieu. Trouvez-moi un complice de Buisson, en tôle, un type dont il ne se méfiera pas. L'inspecteur Roger Borniche pense tout de suite à Roger Decker, le petit Roger qui s'est évadé avec Buisson de prison. L'idée est de mettre dans la cellule de Decker à Fresnes un indique, un mouton, dont l'unique objectif est de gagner sa confiance et d'obtenir une recommandation auprès de Buisson. Un petit mot, quoi, un paplard dont l'autre ne se méfiera pas. Et ça marche. Et au bout de quelques semaines, Freddy, qui partage la cellule de Decker, obtient le fameux sésame, une recommandation. Acte 2, les policiers fournissent au dit Freddy une voiture, une planque et même un flingue. Et maintenant, à Freddy de se faire recruter par Buisson. Et voilà comment Mimille se retrouve un jour avec une Peugeot 202, un Colt 45 et une chambre en pension complète chez la mère Audu, à Chaville, en Normandie. Notez au passage que l'hôtelier est un ami du commissaire. Mimille débarque à l'auberge le 3 juin 1950. Le commissaire est tout de suite prévenu. Il décide de le laisser souffler un peu, baisser la garde, se détendre. Et au bout de quelques jours, Buisson prend ses repas avec le patron dans la cuisine. C'est dire s'il est détendu. Le 10 juin, c'est le jour J. Et voici le plan. Il est audacieux, il est très risqué, il est même un peu dingue. L'inspecteur Borniche doit aller déjeuner aujourd'hui à l'auberge où loge Émile Buisson, à Chaville, en Normandie. Il doit se faire passer pour un Pékin moyen. Et pour cela, il a enrôlé sa femme, figurez-vous. Et c'est donc en couple que l'inspecteur Borniche arrive à l'auberge, au bras de sa femme, et tant qu'à faire, en deux lahés. Jolie voiture, très élégante. Le commissaire Gillard joue les amis. Ils entrent tous les trois dans l'auberge et ils s'installent à table. Buisson est dans la cuisine, comme tous les jours depuis qu'il fait ami-ami avec le patron. Et Borniche voit tout de suite que l'autre est sur ses gardes. Il ne lâche pas la salle des yeux. Il scrute chaque arrivant. Et comme il est sans doute armé, il va falloir être très prudent. Des cas comme lui, ça renifle le flic de loin. C'est un chien de chasse, Buisson. Alors le trio donne du change comme jamais, les Borniche jouent les amoureux, et ça parle, et ça rit, et pour l'instant, ça passe. Borniche et Gillard, évidemment, doivent maintenant improviser la suite et pas se planter. D'un coup d'œil discret, Borniche repère le téléphone. Pour aller téléphoner, il faut passer devant Buisson. « Mademoiselle, est-il possible de téléphoner à Deauville ?»« Mais bien entendu, monsieur, le téléphone est là derrière. »« Vous m'excusez, il faut que j'appelle la clinique. » Quand Borniche passe devant Buisson, l'autre le remonte du regard, des pieds jusqu'à la tête. Bon Dieu qu'il est méfiant. Il a la main sous la table, il est armé. Borniche fait semblant de téléphoner. « Allô ? Ici le docteur André. Je suis en route avec des amis, je serai en retard sans doute. Ne m'attendez pas pour les visites. Entendu ?» Quand il raccroche, ça va très vite. Borniche ceinture Buisson, dont l'arme tombe à terre. Et c'est sa femme qui lui apporte les menottes. « Tu es fait, Mimil. Tu es fait comme un rat. Tu ne bouges pas. Sans ça, ça va être ta fête. » Et c'est ainsi que s'achève la cavale de Fatalitas. Madame Borniche sort tout de suite de l'auberge. Elle donne un coup de sifflet. Et oui, Chenevier, le commissaire Chenevier, autant vous dire que lui et ses hommes piaffent d'impatience dehors. Il faut bien qu'il en profite un peu de sa victoire. Il a coincé Émile Buisson. Et Buisson, quand il voit le commissaire, il lui dit bravache. « Ah, c'est vous ? Eh ben payez-moi un digestif. » Puis il regarde son dessert, des fraises. « c'est moi qui les ai cueillis ce matin. » Il n'est pas prêt d'en cueillir des fraises. Il est plutôt programmé pour cueillir des pissenlits par la racine, si vous voyez ce que je veux dire. La tête légèrement détachée du corps. Parce qu'entre nous, avec ce qu'il a fait, c'est ce qu'il attend. La guillotine. Il est temps maintenant de ramener le gibier au siège de la sûreté à Paris, rue des Saussées. Et bien sûr, à l'arrivée, on a convoqué quelques photographes. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est Émile Buisson, tout de même. On n'en coince pas tous les jours, des gars comme lui. À l'arrivée, c'est le festival de Cannes. Et le lendemain, la presse est dithyrambique. Le commissaire Chenevier est surnommé le premier flic de France. Et il y en a à qui ça retourne les tripes. Ah ça, je peux vous le dire. Les gars du 36, qui est des orfèvres, en ont gros sur la patate. Un coup comme ça, ça rend jaloux. Il est décidé de cacher à la presse les conditions de cette arrestation. Chenevier veut protéger son ami aubergiste et son indicateur. On dira donc que l'arrestation a eu lieu à Boulogne-Billancourt, aux Trois Obus, en plein dans le territoire du 36. Juste pour rire. Évidemment, on ne parlera pas de Madame Borniche. Et maintenant, voici Émile Buisson dans le bureau du commissaire Chenevier. C'est lui, bien sûr, qui l'interroge, avec un drôle de rituel qui se répète pendant plusieurs jours. Buisson, quand on l'emmène dans le bureau du commissaire, demande à lire le Figaro. Et après, il parle. Ça, pour parler, il parle. Il balance tout et tout le monde. Un vrai moulin. Il n'y a pas de raison que je planche tout seul. C'est ça, son argument. Quand on pense qu'avant, son slogan, c'était « Je ne parle qu'à Dieu, car lui au moins n'est pas une donneuse ». Il a changé, Mimile. « Vous savez, monsieur Chenevier, mes vieux sont morts dingo-dingo. Et moi, parfois, je parle à mon revolver, comme un dingo, moi aussi. J'ai eu la vie que je méritais. Elle n'a pas été belle. » En revanche, quand on lui parle de l'indique qui l'a fait tomber, il est moins romantique. « Celui-là, si je le tenais, je lui couperais le cou avec une scie et je m'arrêterais souvent pour l'entendre gueuler. » Et ça continue chez le juge. Mimile balance tout le monde. En même temps, il ne prend pas beaucoup de risques. Il n'est pas prêt de les revoir, tous ces gens. Il balance même un gars avec lequel il a braqué le crédit industriel à Troyes avant la guerre. Courjibet, dit Gibus. Il s'est enfui aux États-Unis. Eh bien, grâce à Buisson, un matin, le Gibus voit arriver les flics américains et on le met dans un bateau pour la France et il prend 5 ans de prison. Il faudra plus de 3 ans au juge pour venir à bout des affaires Buisson. 1000 procès-verbaux. Buisson est inculpé pour 36 affaires. On lui colle 9 meurtres, mais lui n'en reconnaît aucun. Je n'ai pas de sang sur les mains. Il n'arrivera pas à en convaincre les jurés des deux procès qui se déroulent en février et mai 54. À la fin, sans surprise, il est condamné à la peine capitale. Le 28 février 1956, on le réveille pour le conduire à la guillotine. Et jusqu'au bout, il cherche la parade. Attendez, attendez, j'ai des révélations à faire, mais attendez, je vous ai pas encore tout dit. Juste avant que la lame ne tombe, il dit « Vous allez regarder mourir un innocent !» Le commissaire Chenevier ne s'est pas déplacé pour l'exécution. Il dira à sa femme « Moi, mon travail, c'est d'arrêter les voyous, c'est pas de les regarder mourir. » Cette histoire a inspiré un roman de l'inspecteur Borniche, Flick Story, qui a connu un grand succès. Et dans la foulée, un film, en 1975, inspiré du roman, avec Delon, qui joue le rôle de Borniche, et Jean-Louis Trintignant, dans le rôle de Buisson.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.